10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Dans 10 minutes, n'oubliez pas la libre antenne, mais d'abord, la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Pékin va supprimer les droits de douane de 53 pays africains. Les autorités chinoises veulent ainsi stimuler les exportations africaines. Explication de notre correspondant en Chine dès le début de cette édition. Un mandat présidentiel sans élection pour le colonel Assimi Goïta. Le maintien au pouvoir de l'ensemble des institutions de la transition malienne a été acté en Conseil des ministres. Réduite au silence, l'opposition s'indigne, nous l'entendrons. À la une également, cette rencontre très attendue aujourd'hui entre Corneille Nangaa et Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO à Goma, une première depuis la chute de la ville aux mains de l'AFC M23 il y a 5 mois. Et puis, en Guinée-Bissau, à 5 mois de l'élection présidentielle, le personnel de la justice s'est joint à la grève des professeurs et des médecins. La Chine compte donc supprimer les droits de douane sur les exportations venant de 53 pays d'Afrique. Pékin entend ainsi stimuler les exportations africaines et réduire la balance commerciale largement en défaveur du continent. Jusque-là, seuls 33 pays les moins avancés bénéficiaient de cette exemption. À Pékin, la correspondance de Cléa Broadhurst.
Le contexte n'est pas anodin. Cette décision chinoise intervient alors que les États-Unis viennent de leur côté d'imposer jusqu'à 50% de taxes sur certains produits africains, vivant les tensions commerciales avec le continent. Objectif numéro 1, stimuler les exportations africaines. Les grandes économies industrielles du continent, comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte ou encore le Maroc, pourraient en tirer des bénéfices immédiats en accédant plus facilement au marché chinois. Mais Pékin veut aussi corriger un déséquilibre structurel. La Chine affiche aujourd'hui un excédent commercial de 62 milliards de dollars avec l'Afrique. En facilitant l'entrée de produits africains, elle espère rééquilibrer la balance tout en répondant aux attentes de ses partenaires. Les pays les moins avancés comme la Tanzanie ou le Mali ne sont pas oubliés. La Chine promet un accompagnement technique et commercial, formation, marketing, soutien logistique, pour éviter qu'ils ne soient écartés. Ce geste s'inscrit aussi dans une ambition géopolitique plus large, renforcer la solidarité Sud-Sud et construire une, je cite, « communauté de destin Chine-Afrique », comme l'a souligné Xi Jinping. Un nouveau pacte économique est en préparation, il devrait s'accompagner de mesures concrètes pour faciliter les échanges commerciaux et humains. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
L'actualité économique encore et ce nouveau partenariat entre Orange et l'Agence française de développement pour le numérique. Le géant français des télécoms opère sur le continent où il entend améliorer l'accès des populations au numérique. Ces nouveaux prêts et subventions de l'AFD permettront à Orange de financer des projets en Centrafrique et en République démocratique du Congo. À des élections sans opposition, Human Rights Watch réagit à la proclamation hier des résultats provisoires des législatives au Burundi. Le CNDD-FDD a raflé les 100 sièges de députés qui étaient en jeu. Le parti qui règne d'une main de maître sur le pays depuis 20 ans avait déjà remporté presque tous les sièges de conseillers communaux. L'ONG relate que dans plusieurs communes, le nombre de votes exprimés aurait dépassé le nombre d'électeurs inscrits. Au Mali, l'opposition s'indigne après l'annonce du maintien des militaires au pouvoir. Un projet de loi qui prévoit d'accorder au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025 a en effet été adopté. C'était mercredi en Conseil des ministres. Ce maintien au pouvoir du président et de l'ensemble des institutions de la transition intervient après la dissolution des partis politiques le mois dernier. David Baché, les responsables de l'opposition malienne expriment une colère aussi vive que désabusée.
Nous hésitons entre indignation et indifférence, décrit un ancien ministre, tant cela était prévisible et tant nous n'attendons plus rien des autorités. Alors qu'ils avaient promis de sécuriser et de réformer le pays avant d'organiser rapidement des élections, un dirigeant de parti dissous note que les militaires au pouvoir se révèlent être un autre genre de politiciens. Rappelant tous les calendriers électoraux souverainement fixés et souverainement violés, cette source interroge « Quel politicien civil a autant trahi ?» Plusieurs opposants notent le caractère anticonstitutionnel du projet de loi et d'un tel maintien au pouvoir sans élection, mais ne se font plus d'illusions. « La réelle intention des militaires est de rester au pouvoir », constate désabusé un ancien ministre. « Le reste n'est que de l'habillage. Au moment où nos soldats sont massacrés, ils ne pensent qu'aux délices que le pouvoir usurpé leur procure », fustige un autre ancien ministre, qui dénonce un nouveau coup d'État, cette fois-ci constitutionnel. « Le Mali vaut mieux qu'un mandat volé », poursuit ce pilier du mouvement pro-démocratie. « Mais le peuple, tôt ou tard, leur retirera ce qu'ils ont cru pouvoir garder par la force. » Nous abordons l'une des phases les plus sombres de notre pays, pose enfin un cadre de l'opposition, qui appelle à résister par tous les moyens possibles.
Vous retrouvez par ailleurs sur notre site internet la réaction de l'ancien ministre Mamadou Ismaïla Konaté. Aujourd'hui installé en exil hors du Mali, l'avocat n'est rattaché à aucun parti, mais il s'est progressivement mué en farouche opposant politique des autorités maliennes de transition. La colère au Kenya. Nairobi a été hier le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Deux voitures ont été incendiées dans la capitale. Les manifestants demandent que justice soit rendue après la mort en détention d'Albert Ojwang. Cet homme de 31 ans a été arrêté la semaine dernière après avoir accusé sur X un responsable de la police de corruption. Albert Ojwang est décédé dans la cellule où il avait été placé. L'autopsie pointe des blessures infligées par une force externe. Une version contraire à celle initialement donnée par la police qui assurait qu'il s'était cogné la tête contre le mur de sa cellule. RFI 8h35 à Bissau, la Guinée-Bissau, où les syndicats de l'éducation et de la santé se mobilisent pour une cinquième journée de grève consécutive. Les médecins du principal hôpital de la capitale affirment ne plus être payés depuis 17 mois. La situation est telle que le président Umaro Sissoko Embalo a été contraint de prendre la parole. Les détails avec Eva Massi.
De retour au pays après une semaine de déplacement officiel, le président bissau-guinéen a répondu à la presse. Les journalistes le questionnent sur la grève en cours à l'hôpital de Bissau. Ils veulent savoir quand est-ce que les médecins percevront leurs salaires impayés. Certains attendent depuis 17 mois. Une demande que Sissoko Embalo juge incompréhensible. Le président affirme que le gouvernement a payé ses dettes envers les fonctionnaires et il ajoute qu'il est impossible d'augmenter les salaires dans la fonction publique, étant donné, dit-il, les engagements budgétaires avec le Fonds monétaire international. En attendant, la grève se prolonge, l'hôpital de Bissau peine à accueillir ses patients et les alternatives ne sont pas nombreuses. Boubacar Touré est président de la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme.
Il y a des femmes enceintes qui n'ont pas pu être prises en charge. On est en pleine saison des pluies et les cas d'accidents et de maladies se multiplient. Il n'y a pas d'alternative, mis à part l'hôpital militaire de Bissau qui lui-même est limité dans ses capacités. L'autre solution, ce sont les cliniques privées, mais c'est trop cher pour la plupart des gens.
À 5 mois des élections, les syndicats espèrent se faire entendre. Le personnel de la justice s'est joint à la grève des professeurs et des médecins, qui dure maintenant depuis une semaine et pourrait se prolonger.
Eva Massi du service Afrique de RFI. Pascaline Bongo inculpée en France dans une affaire de blanchiment et de corruption. La fille aînée du défunt président Omar Bongo et sœur de l'ex-président Ali Bongo est impliquée dans une nouvelle procédure judiciaire. Pascaline Bongo est ici mise en examen pour des faits remontant aux années 2000 quand elle était directrice de cabinet du défunt président gabonais. C'est une première depuis la chute de Goma aux mains de l'AFC M23 il y a 5 mois. Bintou Keïta est arrivé hier dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Le début d'une visite de 3 jours pour la chef de la MONUSCO qui doit s'entretenir aujourd'hui avec le leader politique de l'Alliance Fleuve Congo. Passion Ligodi.
Ce sera le moment le plus attendu de cette visite. La rencontre entre Bintou Keïta et Corneille Nangaa. Le mouvement armé considère la mission onusienne comme une force belligérante vaincue comme l'armée congolaise. Depuis, l'AFC M23 contrôle les zones et surveille de près les déplacements des casques bleus. Le mouvement veut aller plus loin et pousse pour obtenir un mémorandum d'entente avec la MONUSCO. Objectif, redéfinir sa présence sur le terrain. Mais cette demande agace. Une source onusienne contactée par RFI affirme que ce ne sera pas à l'ordre du jour. Autre épisode, en avril, l'AFC M23 a accusé les FRDC, la MONUSCO et la SADC d'avoir mené des attaques contre Goma, Kavumu et d'autres localités dans les deux Kivu. La mission onusienne a démenti. Cette visite de Bintou Keïta intervient aussi au lendemain d'un rapport accablant. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la majorité des violations des droits humains enregistrées au mois d'avril sont le fait de groupes armés. Et en tête, l'AFC M23 soutenu par l'armée rwandaise. Mais malgré ce contexte, le dialogue n'a pas été rompu. En mars, Corneille Nangaa avait déjà reçu Bruno Le Marquis, numéro 2 de la MONUSCO. Et cette nouvelle visite arrive aussi à un moment particulier. Dans 2 semaines, Bintou Keïta doit s'exprimer devant le Conseil de sécurité.
Un patient Ligodi, alors que cette fois, au sud Kivu, la société civile dans toute sa diversité continue d'appeler pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Hier à Bukavu, les représentants des organisations de la société civile se sont donc prononcés pour un dialogue inclusif de toute urgence. Ils recommandent notamment la mise en place d'un couloir humanitaire, la réouverture de l'aéroport de Goma et également celle des banques fermées et ce en raison du conflit dans l'est du pays. La paix dans l'est de la République démocratique du Congo, qui découlera peut-être d'un accord avec les États-Unis sur les réserves minières congolaises. À Lubumbashi, en tout cas, la DRC Mining Week se referme aujourd'hui avec des entreprises américaines présentes. RFI 18h40, ici à Paris. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Juan Gomez, tout de suite pour Actuel sur l'actualité.
Oui, il est 10h40 pour être précis.